Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'écouter Radio Capi qui vous propose cette deuxième heure du magazine spécial consacré à la cérémonie d'investiture du 5e président de la République démocratique du Congo. La RDC connaît en ce jeudi 24 janvier 2019 sa première passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État et c'est depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous sommes ensemble pour deux heures pour le moment d'antenne ici au studio Jérôme Ngongo de Radio Okapi. Cette deuxième heure est consacrée bien sûr aux défis qui attendent le nouveau président qui va prêter serment ces jours. Ce magazine spécial est mis en ondes par Jean-Claude Tiala avec une coordination technique de Bob Landou. Nico Kalambay est à la coordination et réalisation et Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous. Et pendant ces temps, pour ceux qui ne suivent pas la cérémonie en direct, ce sont les délégations étrangères qui arrivent au Palais de la Nation pour ce moment historique qui est commenté dans ce studio de Radio Okapi. Et comme je le disais, cette deuxième heure est consacrée bien sûr aux défis qui attendent le nouveau président, partant de l'aspect sécuritaire, l'aspect socio-économique ainsi que l'aspect politique. Trois invités vont être avec nous, ils vont nous accompagner pour cette deuxième heure dans ces studios de Radio Capi, mais aussi au téléphone, Ernest Impararo, président de la Ligue congolaise contre la corruption. Ernest Impararo, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé au studio de Radio Capi. Crispin Malingumu, analyste économique, chercheur à l'Université de Kinshasa, sera avec nous. Et nous avons aussi en direct de Kolwezi, Madame Tresfin Tumba, bonjour. Madame Tresfin Tumba, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis là, j'avais du mal à vous capter, bonjour.
Merci, je crois que cette fois-ci c'est très bien, essayez peut-être de vous repositionner un tout petit peu. Nous sommes avec vous pour parler de défis qui attendent le nouveau chef de l'État sur les plans socio-économiques, sur le plan sécuritaire et sur le plan de, bien sûr, politique. Ernest Impararo, votre mot avant de parler des défis, votre mot, votre impression sur l'événement de ces jours.
Oui, c'est un grand événement que tous les Congolais sont en train de suivre. Nous vivons une première passation de pouvoir entre un président sortant et entre un président élu. Et c'est vraiment quelque chose qui nous impressionne beaucoup. Et je pense que nous devons dire merci à Kabila pour avoir tenu sa parole.
Et vous qui avez milité pour dans le cadre des luttes contre la corruption, la canalisation des deniers publics, je me rappelle, on a eu une émission avec vous quand il y avait cette histoire des fuites des capitaux dans le Katanga. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une passation pacifique du pouvoir avec un autre président, ça peut marquer aussi le tournant dans votre travail que vous faites?
Effectivement, parce qu'il y a de nouvelles autorités qui arrivent et jusqu'à preuve du contraire, ces nouvelles autorités, ils ont promis à la population congolaise qu'ils vont prioriser la lutte contre la corruption dans leur travail quotidien. Mm-hmm. Et je pense que nous attendons d'elles, ces autorités-là, nous attendons d'elles beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont promis durant la campagne électorale.
Et Tresfin Tumba, vous êtes à Kolwezi, chercheur en géopolitique prospective, et nous parlons aussi de femmes dans cette question. Et vous, aujourd'hui, on peut dire que le fait d'avoir cette passation pacifique du pouvoir, est-ce que les femmes se sont retrouvées dans cette lutte pour qu'on arrive effectivement à l'alternance, Tresfin Tumba?
Alors, de façon générale, puisque l'on dit que c'est une victoire du peuple congolais et que le peuple congolais renferme les hommes et les femmes, on peut dire aussi que c'est une victoire des femmes congolaises, parce qu'elles sont également partie prenante de cette population congolaise. Donc, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure l'invité, ça reste véritablement une page historique, un événement impressionnant, parce que c'est pour la première fois qu'on voit en RDC une passation de pouvoir pacifique. Je préfère pas utiliser le mot civilisé parce que je crois pas que... Je sais pas à quoi ressemblerait une passation de pouvoir non civilisée. Donc, je crois que de façon générale, l'ensemble, c'est au peuple congolais qu'on doit féliciter, qu'on doit adresser nos félicitations pour avoir été ce peuple vigilant et d'être allé voter surtout le 30 décembre dernier.
Mais on va être avec vous pour nous parler aussi de questions qui touchent à la femme. Quels seront pour vous le défi qui attend le nouveau président Tshisekedi Tshumba? On vous garde en ligne. Nous avons encore Crispin Malingumu qui pourra arriver dans ces studios. En attendant, il est avec nous au téléphone. Crispin Malingumu, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Et pour vous, pensez-vous aujourd'hui, en tant qu'analyste économique, qu'il y a des défis majeurs qui attendent le nouveau président?
Exactement. Les choses ont été faites pour le pouvoir sortant. Beaucoup de choses ont été faites. Et nous espérons que là où ils se sont arrêtés, le nouveau pouvoir pourra également faire des efforts pour continuer à pouvoir redresser l'économie de notre pays, à améliorer la situation du social. Donc les défis sont énormes. Et comme nous allons en discuter tout au long de cette émission.
Voilà, Crispin Malingumu, on vous l'avait dit, les défis sont énormes. Aujourd'hui, quand vous voyez cet événement, quel est le premier élément qui vous passe par la tête sur le plan économique? Vous vous dites, par exemple, le président qui va tout à l'heure prendre le pouvoir, et un seul mot qui peut vous passer sur la tête sur le plan économique, qu'est-ce que vous pouvez lui dire rapidement?
Oui, d'abord, la première chose à faire, nous savons qu'on ne peut jamais avoir une bonne économie sans une bonne justice. Donc la première chose, à mon sens, qui doit être réglée rapidement, c'est d'abord l'instauration d'une bonne justice pour que finalement on puisse mettre en place une bonne économie.
La justice, ça c'est très important. Ernest Pararo, Crispin Malingumu parle de la justice. Et vous, quand vous remarquez la question de la justice dans notre pays, parce qu'on a parlé plus les cas de corruption, à quel niveau va être la politique du prochain président pour concorder exactement votre lutte, votre cheval de bataille qui est la lutte contre la corruption, et coïncider ça avec la question de la justice?
Effectivement, pour le nouveau président, je pense qu'une des priorités serait de continuer avec les réformes. Surtout la réforme judiciaire qui n'est pas encore terminée. Il y a la réforme fiscale ou la réforme financière qui n'est pas encore terminée. Il y a la mise en application du code minier aujourd'hui. Il y a l'assainissement du climat des affaires, comme vous le savez. Et l'assainissement du climat des affaires va de pair avec la justice. Parce que lorsque vous constatez que les investisseurs qui viennent et qui pourraient créer des emplois, ou même les Congolais qui ont l'argent, qui pourraient investir afin de créer les emplois, lorsqu'ils sont tracassés par différents services de l'État, et c'est à la justice d'intervenir. Or, aussi longtemps que nous avons une justice qui est complice même de certains services, à ce moment-là, le nouveau président aura des problèmes. Mais nous espérons effectivement que le nouveau président pourrait effectivement réformer ou finaliser la réforme de la justice qui a été qui continue jusqu'à aujourd'hui, à tel point qu'on doit construire des parquets, on doit équiper les magistrats, on doit équiper les policiers, on ne doit plus voir des policiers dans les conteneurs. On ne peut plus, ça n'existe pas nulle part. Un policier qui est dans un conteneur, il vous rendra quel juge? Quel service? Tout à fait un problème. Donc, je pense que l'une des grandes priorités, c'est de continuer les réformes. Et je sais que ces réformes pourront avoir des impacts et sur l'économie, et sur la sécurité, et sur le développement au niveau global.
Mais parce que vous avez parlé de réformes, plusieurs fois quand on a vu dans le débat au niveau de la Troisième République, les gens revenaient tout le temps pour dire le Congo l'avons trouvé très loin avec la Deuxième République. On a entendu seulement ça jusqu'à peut-être à la fin du mandat du chef de l'État sortant Joseph Kabila, où les gens sont revenus plus sur l'héritage laissé par la Deuxième République. Pensez-vous que dans 5 ans, quelle va être la marge des manœuvres du nouveau président pour effectivement arriver avec ces corruptions, surtout sur ce point de la justice et la corruption?
Vous savez, lorsque vous avez un nouveau pouvoir, la première chose à faire, c'est de dire, écoutez, nous, parce qu'il aura besoin d'argent. Il a promis pendant la campagne qu'il pourra mobiliser 84 milliards.
Oui, sur 10 ans.
Sur 10 ans. Or, 84 milliards sur 10 ans, ils doivent maintenant avoir une stratégie qui pourra lui permettre de mobiliser ces 84 milliards. Or, à mon entendement, pour mobiliser cet argent, il doit fermer tout, il doit lutter contre le coulage des recettes, ou il doit lutter contre le détournement à la source. Ils doivent lutter contre la fraude, ils doivent lutter contre les pots de vin. Et comme vous le savez, prenez seulement un cas. Je vous dis seulement un seul cas. Vous voyez la police. Nous avons plus de 52 000 sous-siats en RDC. Plus de 52 000 sous-siats. Si chaque sous-siat pourrait seulement par jour mobiliser 10 dollars, ça nous fera combien par mois? Ça nous fera combien par an? Ça, je donne un seul exemple. Et lorsqu'un nouveau président arrive, ils doivent appeler les experts, ils doivent appeler les stratèges pour dire, écoutez, la première chose à faire, c'est de mobiliser les recettes internes. On ne doit plus avoir un budget de 4 milliards avec tout ce que nous avons comme recettes internes. Si chaque citoyen pourrait payer, ou si chacun qui travaille ou qui a une activité commerciale pourrait contribuer à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau provincial et au niveau national, je pense que les recettes internes pourraient l'aider à réaliser les promesses faites durant la campagne électorale.
Voilà, Tresun Toumba, vous intervenez de Colosie, et en tant que chercheur en géopolitique et prospective, nous parlons de cette question. On sait aussi que le président sortant Joseph Kabila, dans son discours, dans ses derniers discours hier, est revenu sur l'importance de l'implication de la jeunesse. Et vous, aujourd'hui, comment le nouveau président va-t-il arriver vraiment à satisfaire, à impliquer la jeunesse, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un problème de l'accès à l'emploi qui se pose dans notre pays. Comment pourra-t-il arriver vraiment à impliquer la jeunesse dans cette question, Tresun Toumba?
Alors, déjà, il faut dire que de façon générale, les questions liées aux jeunes ou encore à la jeunesse sont des questions d'ordre transversal. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui se retrouvent pratiquement dans tous les secteurs de la vie d'un État. Je vais donner l'exemple sur le plan économique. Plusieurs jeunes en RDC, tout comme à l'étranger, allusion faite donc aux jeunes de la diaspora, gèrent des entreprises. Ils sont initiateurs et fondateurs des startups, ils tiennent des petites et moyennes entreprises, ce qui veut dire que d'une façon ou d'une autre, ils contribuent à la croissance du PIB de l'État. D'autant plus que ces derniers payent des taxes, leurs cotisations sociales, les impôts et aussi tous les autres taxes à payer. Donc ils sont contribuables autant que les autres acteurs de la société. Ça veut dire que l'on ne peut pas simplement ressortir comme si c'était assez à part de tout ce qui reste pour parler des jeunes à côté. Je vais prendre un autre cas puisqu'on a parlé de la question de la justice et de l'état de droit ici. En parlant de cette question, les jeunes ne peuvent déjà pas être mis à l'écart. Premièrement, de par le statut de certains, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont avocats, il y en a qui sont magistrats et qui travaillent donc dans l'administration judiciaire. De la même façon que l'on analysera les questions de monnayage des services judiciaires, par exemple, puisqu'il faut en parler, ou encore de l'impartialité effective de la justice, la question des jeunes sera prise en compte dans un angle et de par leur profession, et dans un autre angle, parce qu'ils sont les premières victimes d'une justice partisane. Il faut être sincère, et moi je dis toujours, si on a envie d'avancer ou de mieux faire, il faut être capable de reconnaître ce qui n'a pas marché. Souvenez-vous de tous ces jeunes arbitrairement arrêtés, jamais déférés devant un juge ou encore détenus secrètement pour la plupart d'entre eux, pour avoir exercé leur droit le plus légitime, celui de la liberté d'expression. Un autre point, c'est celui de l'éducation ou encore de l'enseignement. Encore là, il faut savoir que leur situation est prise en compte quand jamais. Aujourd'hui, moi je pense que celui qui se dit devra le plus tôt possible lever l'équivoque, par exemple, sur la question de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est même pas un sujet à négocier pour ma part, parce qu'on le sait tous, c'est consacré par la Constitution dans son article 43, et c'est honteux, pour un pays comme le nôtre de voir que le privé possède plus d'écoles que le public. Il faut que l'État arrive à construire des écoles afin de faciliter l'accès de tous les enfants à l'éducation. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 4 ans, de 5 ans, soit obligé de parcourir 7 km et même plus, tous les matins pour aller étudier. Conséquence, les enfants abandonnent l'école. Pourquoi? Parce que l'école est loin, l'école coûte cher et facilement, ils se déversent dans les mines ou encore dans les champs. Concernant l'enseignement universitaire.
Tresun Toumba, On a des petits soucis des lignes. On va revenir à Tracine Toumba. Crispin Malingoumou, vous avez, on sait aujourd'hui que la RDC a construit son économie sur les secteurs miniers. Il y a eu ces booms miniers avec le cobalt, mais on sait aussi toute la polémique qu'on a eue dans ces pays autour du code minier. Pensez-vous que dans les défis du secteur minier, faudra-t-il aujourd'hui au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se concentrer encore sur les secteurs miniers, ou pourra-t-il, et selon vous, essayer de réfléchir comment diversifier l'économie afin de pouvoir atteindre son projet d'avoir ses budgets de 84 milliards dans 10 ans?
Oui, exactement. C'est vrai, notre économie est basée sur les mines. Ça, c'est une évidence. Mais à mon sens, nous devrions, les nouveaux pouvoirs doivent réfléchir comment pouvoir diversifier l'économie, comme vous l'aviez dit. Et je pense que les mines ne devraient pas être le secteur clé de l'économie, en dépit du fait que c'est un secteur porteur de croissance. Mais à mon sens, il faudrait peut-être que l'on voie comment pouvoir diversifier l'économie en passant par en modernisant le secteur agricole, l'agro-industrie, et pouvoir dupliquer, si je peux le dire, en dépit de quelques failles qu'on a constatées dans le concept des parcs agro-industriels. On peut néanmoins envisager diversifier notre économie en renforçant le secteur agricole, en recourant au concept même de parc agro-industriel, tout en veillant sur les spécificités de chacune des provinces de notre pays. Mmh. Il faudrait pas qu'on puisse faire la même chose partout. En dépit, bien que l'on doit envisager recourir à ce concept de parc agro-industriel, mais il faudrait qu'on puisse réfléchir par rapport à chaque province. Il y a des provinces où c'est peut-être le maïs qui est beaucoup plus facile à cultiver, et donc voir dans quelle mesure on devrait spécialiser chacune des provinces par rapport à ses potentialités.
Alors, Christophe Malingoumou, on a entendu le président qui va être investi tout à l'heure, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, insister lors de la campagne la question de la diversification de l'économie, mais il est revenu plus sur la question de la lutte contre la corruption pour la canalisation de recettes, parce qu'il a estimé, comme le disait le président Ernest Imparao tout à l'heure, que si nous prenons seulement la police, ça peut faire entrer beaucoup d'argent, et lui avait évoqué même la canalisation de recettes. Alors quelles pourront être ses forces aujourd'hui pour arriver à bien sûr mobiliser ses recettes, en partant bien sûr de l'argent qui peut partir? On sait qu'il y a la DGRAD, il y a la DGI, il y a les directions provinciales de recettes, avec tout le problème de coulage. Et quelles pourront être ses forces aujourd'hui pour arriver à ne fût-ce que d'abord construire l'économie sur les recettes que nous avons qui échappent au trésor public?
Oui, c'est comme je l'ai dit quand vous m'aviez posé la première question, quel devrait être le premier pilier à réformer? Je parlais de la justice. Il faudrait que l'on puisse instaurer une bonne justice qui permet à ce que des agents véreux puissent être sanctionnés sévèrement et des agents honnêtes puissent être aussi également récompensés positivement. Et cela en mettant en place les mécanismes de contrôle qui permettront à ce que l'on arrive à identifier exactement quels sont les efforts qui sont fournis par chacune des régies, et essayer de démanteler tous les réseaux de mafieux qui se trouveraient dans ces régies, mm-hmm. et en appliquant une justice vraie, comme je l'ai dit.
Tracine Toumba, on vous a perdu tout à l'heure quand vous étiez en train d'évoquer la question de la gratuité de l'enseignement et les systèmes. Alors, quelles pourront être aujourd'hui les forces du nouveau président pour arriver effectivement à la gratuité de l'enseignement, mais non seulement ça, mais voir comment consolider les secteurs éducatifs d'une manière globale, parce que c'est l'élément sur lequel vous étiez en train d'intervenir, Tracine Toumba.
Ben oui, mais peut-être que pour dire un mot sur la question de l'éducation, moi je l'ai toujours dit, c'est qu'il faudrait qu'on arrive clairement au niveau de la RDC à organiser les états généraux l'éducation. Aujourd'hui, il faut faire toute la refonte du secteur éducatif. On a parlé il y a quelques temps de la question de l'éducation de base. Aujourd'hui, on parle des classes de 7e et 8e aujourd'hui. Mais toutes ces questions, est-ce que ces questions sont comprises, sont vulgarisées auprès des communautés? Malheureusement, non. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à être capable de savoir dans quel coin de la République, dans quelle province de la République, qu'est-ce qui pourrait aider concrètement les communautés à développer et voir comment orienter les enfants par rapport à tel domaine de formation. Mais pour revenir à la question de la gratuité, je le disais tout à l'heure que cette question ne se négocie pas, parce que la Constitution est claire quant à ce sujet. L'article 43 de la Constitution consacre la gratuité. L'article 34 de la loi cadre sur l'enseignement consacre la gratuité. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut arriver à mettre en place des mécanismes et des politiques adéquates pour alléger la charge aux parents. Je viens de le dire tout à l'heure et je disais, c'est hallucinant et c'est tellement choquant que dans un pays où on parle d'état de droit, que ce soit le privé qui détienne pratiquement la majorité des écoles par rapport au public. Moi, je dis toujours, le développement de l'homme, il passe par l'éducation. On doit être sûrement d'accord avec tout le monde dans le plateau. Donc, si l'on veut restaurer le Congo, il faut arriver à restaurer l'homme. Et pour restaurer l'homme, il faut l'éduquer. Ce n'est pas normal que dans un pays comme celui-ci, alors que l'on prône l'émergence, que le budget de l'éducation baisse entre 2%, 3%, 4%. Alors, dites-moi, avec 3% de taux pour les allocations liées à la question de l'éducation, qu'est-ce que l'on va faire? Comment allons-nous produire et former demain les futurs dirigeants de notre pays? Je pense qu'il faut qu'on arrive à être à la hauteur de nos ambitions. Qu'on arrive à être à la hauteur de nos ambitions. Si réellement on veut avoir un pays émergent avec des institutions fortes et des hommes dignes et formés, il faut qu'on arrive à mettre du paquet dans le secteur éducatif, à reformer le secteur, à s'asseoir autour d'une table et faire les états généraux de la question éducative de la même façon qu'on a eu à faire les états généraux de la justice.
Et Tréchine Touba, vous avez évoqué le rôle de la jeunesse tout à l'heure. J'ai aimé quand vous avez insisté sur le fait que les jeunes sont nombreux sont dans l'entrepreneuriat. Mais on a suivi lors de ces différentes adresses lors de la campagne où Félix Tshisekedi insistait beaucoup sur le fait que la jeunesse doit être plus créateur d'emplois que demandeur d'emploi. Et pour vous, quels devaient être les mécanismes que le nouveau président pourra mettre en place pour permettre effectivement à cette jeunesse d'être plus créateur d'emplois que demandeur d'emploi?
Alors, et ça c'est bien. Moi je dis, c'est pas les beaux discours qui font le changement. Le changement, il se fait par l'action. C'est bien de dire, mais il faut concrètement nous dire qu'est-ce que l'on fait. À cette question, moi je dis simplement une chose. Et je vais répondre comme les jeunes Congolais. Ça veut dire, que veut le jeune Congolais pour arriver effectivement à fonctionner, à être opérationnel? Il faut arriver à mettre en place un régime fiscal incitatif pour permettre aux jeunes, de façon générale, femmes et hommes, de monter leur projet, de créer leur entreprise. Et tout ceci passe par l'amélioration du climat des affaires. Ça veut dire que l'ANAPI doit revoir sa façon d'agir ou agir conséquemment. Le FPI doit devoir communiquer avec les jeunes et promouvoir ainsi leur projet. Et le cadre de fonctionnement de l'OPEC doit être rationalisé et toutes les autres institutions qui entrent en jeu. Donc, moi je pense que concrètement, comme je le disais, il faut créer un climat d'affaires qui permet à ce que le jeune, lorsqu'il a son projet, qu'il n'hésite pas à le mettre en œuvre. Parce qu'on en a beaucoup ici qui ont des compétences, qui ont envie de faire, mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire parce que le cadre n'est pas adéquat. Mais un élément aussi important, je dis, le jeune Congolais veut avoir sa place à la table.
Voilà, encore des petits soucis de ligne, on va revenir à Tracy. Ce que vous avez dit, c'est important, parce que vous avez parlé sur l'amélioration des climats des affaires. Ernest Impararo, est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui des bases, des forces, qu'on peut dire, sur lesquelles le nouveau président peut construire pour cette question? Parce que nous avons parlé du secteur minier, nous avons parlé de l'amélioration du climat des affaires. Y a-t-il déjà une base aujourd'hui sur laquelle le nouveau président peut construire pour arriver vraiment à atteindre cet objectif?
Oui, effectivement, comme Mme Tracy l'a dit, si vous prenez par exemple l'FPI, c'est le Fonds de promotion de l'industrie. L'FPI a comme mandat ou comme mission de promouvoir les industries, les PME locales. Or, si vous prenez ce que Mme Tracy venait de dire, si on pouvait financer des projets dont, qui sont soumis par des jeunes et des jeunes entrepreneurs, je pense que petit à petit, on peut aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que Effectivement, le nouveau président rencontre toute une multitude de réformes qui ont été mises en place. Et ces réformes ne sont pas terminées. Si vous prenez par exemple dans le secteur des mines, qu'est-ce que le nouveau président doit faire? Un, il doit demander à ce que toutes les régies financières, toutes les régies, que ce soit la DGDA, que ce soit la DGI, que ce soit la DGRAD, chacun doit mobiliser ce qu'il faut mobiliser. Or, qu'est-ce que nous constatons? Lorsque les inspecteurs de la DGI descendent dans les entreprises minières, ils ne font pas le bon travail. Vous aviez suivi il n'y a pas 3 mois, la GECAMINE a demandé à ce qu'on puisse auditer le partenariat entre la GECAMINE et Boss Mining, une société minière. La GECAMINE a découvert que Boss Mining était en train de mentir. Boss Mining a une dette fictive de plus de 2 milliards de dollars. Or, durant plusieurs années, les inspecteurs de la DGI, les vérificateurs de la DGI contrôlaient cette société. Et ces inspecteurs n'ont jamais découvert que Boss Mining avait une dette fictive de 1,5 milliard. Et vous savez quelles sont les conséquences? Lorsque vous avez une dette comme ça, la société ne paie pas l'impôt sur les bénéfices et profits. Ils déclarent chaque année ils sont en perte, et c'est l'État qui manque. Et c'est le fonds, les recettes qui n'entrent pas, parce que l'entreprise ne paye pas. Or, dans le secteur des mines, le plus grand acte générateur de recettes, c'est l'impôt sur les bénéfices et profits. Une société peut vous payer 100 millions de dollars. S'il y a 10 sociétés seulement en production qui payent 100 millions, 200 millions, directement nous avons sur 10 sociétés seulement, sur un seul acte générateur de recettes, 1 milliard. Un seul acte générateur, l'impôt sur les bénéfices et profits. Or, ces agents de la DGI qui descendent sur place, ils sont corrompus et ils masquent tout. La GECAMINE nous a montré, ils ont même signé un accord avec cette société Boss Mining pour effectivement augmenter le part de la GECAMINE dans le partenariat. Aujourd'hui, la GECAMINE est 49% et Boss Mining a 51%.
Donc, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir aujourd'hui avec le nouveau président, parce que beaucoup de personnes estiment qu'il y a un décret quand même qui remette le pouvoir au portefeuille. Cela veut dire aujourd'hui que la GECAMINE soit en mesure d'avoir une mainmise dans ce secteur, parce qu'on sait qu'avec l'éclatement de tous ces mines, ça devient incontrôlable. La GECAMINE elle-même qui, à un certain moment, ne vit presque plus. Faudrait-il pas faire une réforme qui permette quand même à cette entreprise de revenir un peu, avoir un peu une main sur cette exploitation dans le Grand Katanga?
Effectivement, c'est ça le grand problème. C'est ça le combat que nous menons aujourd'hui. Le combat, c'est de dire, écoutez, toutes les entreprises du portefeuille, il doit y avoir un mécanisme de bonne gouvernance. Vous aviez suivi, nous nous sommes basés sur la GECAMINE, je vous dis par exemple. La GECAMINE, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, et l'avènement du nouveau conseil d'administration, ils ont promis que en 2016 plutôt, ils devraient déjà commencer à produire 100 000 tonnes de cuivre. Est-ce qu'ils ont produit ça? Non. Or, il y a eu pas mal de paiements. Le PCA Yuma lui-même a dit qu'entre 2007 et 2014, ils ont généré plus d'un milliard de dollars. Mais où est passé cet 1 milliard de dollars? Est-ce que le 1 milliard de dollars a permis à ce que la GECAMINE puisse être compétitive comme les autres sociétés privées? Non. Pourquoi? Parce que l'État interfère dans ces sociétés-là. Si vous prenez par exemple la SNEL, parce que les entreprises minières disent, écoutez, nous, si on ne produit pas beaucoup, c'est parce qu'on n'a pas d'électricité. Aujourd'hui, au Katanga, la plus grande partie de l'électricité provient de la Zambie. Or, la SNEL, je peux vous donner un seul cas, il y a une société Ivanhoe, une société minière, qui a payé à la SNEL, l'année 2017-2018, plus de 40 millions de dollars pour réhabiliter les lignes électriques. Est-ce que la SNEL a réhabilité ces lignes électriques? C'est ça la grande question. Donc, moi, je pense que un, le nouveau chef d'État doit auditer ces entreprises-là. Et lorsqu'on met en place les contrôles, on met en place les audits et on doit arriver à des sanctions pour des gens qui sont attrapés.
Et ça dit que là, il faut qu'on arrive à une rupture, parce qu'on parle du système, on ne parle pas des individus. Ça dit qu'il faut qu'on arrive à une rupture et que le nouveau président, effectivement, fasse de la rupture pour qu'on arrive à une audit.
Effectivement, c'est ça. On doit auditer. Quel est le problème? Par exemple, on prend la SNEL, on prend la régie des eaux. Quel est le problème de la régie des eaux? C'est par un audit organisationnel, financier, qu'on pourra savoir le problème de la régie des eaux. Ceux qui détournent doivent être sanctionnés. Ceux qui gèrent bien doivent être récompensés.
C'est ça le grand problème.
Et on doit arriver à ça.
Et ça.
Je rappelle à nos auditeurs que vous suivez le spécial magazine sur l'investiture du 5e président de la République démocratique du Congo en direct ici du studio Jérôme Ngongo de Radio Okapi. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre en direct, rappelons que toutes les délégations sont déjà installées, les délégations étrangères continuent à arriver et nous vous faisons vivre en direct cet événement. Cela veut dire des discours majeurs qui pourront être prononcés, mais aussi le direct avec les témoignages d'un moment à l'autre de notre correspondant sur place au Palais de la Nation. C'est Jeff Ngoyi qui pourra nous décrire l'ambiance en direct du Palais de la Nation. Et avec nos invités dans ce magazine spécial, nous faisons le point sur les défis qui attendent le nouveau président. Nous avons évoqué les questions de l'économie. Je reviens à vous, Crispin Malingumu. Merci d'être avec nous. Dommage que vous vous êtes retrouvé à l'ancienne Radio Capi au quartier général, mais c'était déjà très très bien votre intervention. Merci d'être avec nous dans ce studio, parce que nous parlons de la question de rupture. Quels pourront être aujourd'hui pour vous comment pourra le nouveau président pourra-t-il définir ses relations avec les institutions de Bretton Woods, parce que on en parle avec tout ce qui a été décrit par Ernest Impararo, notre capacité interne de mobilisation de recettes. Est-ce qu'on pourra toujours avoir une main tendue et à quel degré de collaboration aujourd'hui avec les institutions financières internationales, mais aussi dans cette coopération multilatérale avec d'autres pays sur le plan économique?
Merci beaucoup pour la question. Ce que nous devons d'abord noter est que les nouveaux pouvoirs ne devraient pas réfléchir ou chercher à évoluer en vase clos. Non, nous avons besoin de ces institutions qui nous ont toujours soutenus et nous pensons qu'il faudrait que nous puissions d'abord compter sur nos propres efforts. Mmh. Comme l'a dit l'autre intervenant, nous devons compter sur nos propres efforts en mobilisant toutes les énergies, en luttant contre la corruption, en luttant contre toutes les antivaleurs que nous avons, qui semblent avoir caractérisé une grande partie de notre population, et sur base des efforts ou des recettes que nous aurons à mobiliser, à ce moment-là, il appartiendra maintenant au pouvoir de pouvoir apprécier s'il faudrait faire recours à ces institutions ou non. Mais, à mon sens, ces institutions restent toujours importantes jusqu'à ce que nous arriverons à avoir une capacité de pouvoir nous prendre en charge totalement nous-mêmes. Mais, le temps qu'on arrive à cette étape-là, nous avons besoin de ces institutions. Et donc, comme je venais de le dire, on n'a pas besoin de pouvoir rompre directement avec ces institutions qui nous ont toujours soutenus.
Et Tresine Toumba, vous êtes à Kolwezi. Sur le plan social, vous êtes dans une zone où il y a presque toutes ces grandes sociétés minières qui sont installées et on sait deux fois qu'il y a ces plaintes entre la réalité d'exploitation minière avec les conditions de vie des populations. Pour vous qui vivez dans le coin où il y a exactement cette exploitation, quel pourra être aujourd'hui les défis majeurs pour le nouveau président en ce qui concerne les conditions de vie de ces populations qui sont dans les zones où exactement ces minéraux sont exploités, Tresine Toumba? Tracy, vous êtes avec nous? Tracy, vous êtes avec nous en direct de Kolwezi?
Allô?
Oui, Tracy, je disais tout à l'heure que vous êtes dans un coin où sociétés minières sont exploitées. On connaît aussi les conditions de vie des populations dans ces coins. Et pour vous, pour le nouveau président, quel pourrait être son défi en ce qui concerne la conciliation de la réalité sur l'exploitation minière ainsi que les conditions de vie des populations comme à Kolwezi où vous êtes par exemple?
Ben oui, et ça fait bien le souligner, parce que c'est en même temps triste de constater le décalage qu'il y a entre ce que l'on dit de la ville de Kolwezi, de la province du Malaba et la réalité des populations. Moi, je dis simplement qu'il faut arriver à réfléchir comment est-ce que les communautés environnantes peuvent arriver effectivement concrètement à profiter de l'exploitation minière. Ce n'est pas normal que les grandes sociétés bâtissent leur entreprise sur l'argent et les matières premières du Congo, mais à côté qu'on ait une femme, qu'on ait un foyer, une maison qui n'en sont pas capables d'avoir l'électricité alors que un site minier à côté a le courant, qui ne soient pas capables d'avoir de l'eau alors que le site minier voisin a de l'eau. Toutes ces questions, à un moment donné, bouleverse les communautés pour dire comment c'est possible que nous avons les richesses, mais on n'arrive pas effectivement à les sentir avec nous. Alors, pour revenir à la question de réforme, je vais faire le lien avec la question qui a été posée. En droit, on dit opposition sur opposition ne vaut. Et moi, je dis réforme sur réforme ne vaut. Pourquoi je le dis? Il faudrait qu'on arrive réellement à réfléchir à comment capitaliser ce qu'on, les acquis. On ne peut pas faire tabula rasa de tout ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a effectivement un bon cognier qui va permettre à la province d'arriver à récupérer déjà les redevances au départ avant la remontée au niveau de Kinshasa, et tous les autres bénéfices qu'il y a au contour de ce cheminier. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement faire asseoir des experts pour s'asseoir sur cette question-là. Ce n'est pas normal que les grandes entreprises se fassent de l'argent ici, viennent à Kolwezi par le biais de la fête du Sud-Irak, sans même passer par Kinshasa, qui gèrent leurs millions, alors qu'à côté, on a une population pauvre. On est dans une ville minière où la plupart des agents recrutés sont des étrangers. Je ne suis pas contre le recrutement des étrangers, mais je dis, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants de Kolwezi? Dans une zone minière comme l'ensemble du Grand Katanga, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à mettre en place une université technique spécialisée sur les questions de mines? Est-ce que pour réfléchir à ça, il faudrait de la magie, il faudrait une baguette magique? Non. Je pense qu'il faut se poser des bonnes questions, arriver à réfléchir
et trouver, voilà, trouver des solutions. On vous garde.
Oui.
Voilà. Donc on va revenir à vous aussi parce qu'il faut qu'on parle quand même de la place que devra accorder le nouveau pouvoir à la femme. On sait que la femme a été victime de plusieurs violences à l'est du pays, partout ailleurs. La question des violences sexuelles, on pourra revenir à vous pour que vous puissiez nous dire comment vous entrevoyez le défi qui attend le nouveau président en termes de lutte contre les violences sexuelles. Mais dans ce studio, nous avons aussi Desmond Mouyeta, coordinateur de l'ONG UDEF, Youth for Development Foundation. Desmond, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, et Tracy a parlé tout à l'heure du rôle que devra jouer la jeunesse avec le nouveau président. Et ici, on a parlé en termes d'emploi des jeunes. Aujourd'hui, pour vous, quel pourrait être ce défi que le nouveau président pourra relever en ce qui concerne la jeunesse et l'accès à l'emploi?
Merci de la parole. Justement, il y a des défis énormes à relever dans ce pays. Comme nous le savons, la République démocratique du Congo est parmi les pays où l'emploi de jeunes connaît une courbe très accentuée. D'ailleurs, selon les études récemment faites, en République démocratique du Congo, lorsqu'on finit ses études, on chôme en moyenne 7 ans.
Donc, 7 ans avant de s'attraper un emploi.
Oui, justement. Donc, quand on finit ses études universitaires, on doit chômer en moyenne 7 ans. Et d'ailleurs, dans la ville de Kinshasa, chaque année, il y a 10 millions, si je ne trompe, de jeunes comme hommes comme femmes qui finissent l'université et ces 3% trouvent l'emploi.
Et disons, on parle de 10 000.
Oui, 10 000.
3% seulement.
3% qui trouvent l'emploi.
Voilà. Mais quand vous avez suivi le nouveau président lors de ses discours de campagne, il insistait sur le fait qu'on puisse avoir aussi la jeunesse qui est plus créateur d'emploi. Et pour vous, comment pourra-t-il amener à transformer cette jeunesse en créateur d'emploi plutôt qu'en demandeur d'emploi?
C'est une très belle question. Vous savez, il faut que le nouveau président travaille avec la jeunesse comme étant un partenaire. Oui, toute action de développement, comme dans d'autres pays du monde, doit être visée par et pour le jeune. Et pourquoi ça? Parce que la jeunesse, elle est là, elle est dynamique. La jeunesse incarne de valeur, la jeunesse n'abandonne pas. Et ça, ce sont des choses qu'on doit plus encourager chez les jeunes. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas encore une politique pour l'accompagnement des jeunes. On a beaucoup de jeunes qui se débrouillent dans le secteur d'entrepreneuriat. Certains sont là, vivent au quotidien, mais malgré les différents défis, ils ne renoncent pas. Alors, ce qui serait peut-être prioritaire pour le nouveau président, c'est d'accompagner les idées et les projets des jeunes. Ça serait très capital surtout.
Et quel pourrait être pour vous le cadre, parce que ça c'est important, le cadre qui pourra permettre au nouveau président d'accompagner les idées des jeunes? Faudrait-il aujourd'hui définir un cadre, parce qu'on a relevé les faiblesses des FPI aujourd'hui, les fonds de promotion de l'industrie?
Oui, justement, comme je le disais tantôt, il faut plutôt créer une coalition où, n'est-ce pas, les gouvernements devraient être en parfaite collaboration avec la jeunesse. En termes de TID ou encore en termes de statistiques, jusque là nous avons échoué parce que la majeure partie des jeunes ne sont pas représentés dans les institutions de prise de décision. Ça, ce sont des choses à prendre en compte. Aujourd'hui, la jeunesse peut râler matin, midi, soir si les réseaux sociaux ne sont pas traités à juste valeur. Mais est-ce que réellement ces jeunes sont pris en considération? Est-ce que les propositions des jeunes qui sont faites matin, midi, soir sont le bienvenu au gouvernement. Moi, je ne pense pas. Donc, au nouveau président, tout ce que nous lui considérons comme stratagème à mettre en place, n'est-ce pas, de chercher une cohabitation, surtout avec le jeune, ce sera très, très important.
Alors, Christian Malungumu, parce que cette question de la cohabitation, de la collaboration avec le nouveau président, avec la jeunesse, c'est très important. On a assisté dernièrement à des conférences sur les plans de l'entrepreneuriat. On était dans la ville de Goma, où on estime que beaucoup de jeunes ont aussi une faiblesse en ce qui concerne la présentation de projets bancables aujourd'hui qui peuvent être soutenus, que ce soit par des investisseurs. Alors, comment dans le prochain jour, le président pourra-t-il aider effectivement cette jeunesse à être plus créateur d'emplois et à être aussi outillé pour présenter des projets qui puissent recevoir l'investissement?
Une bonne question, tout en acceptant tout ce que notre collègue a parlé. Moi, je pense que la solution qui peut être envisagée, c'est d'abord réformer l'enseignement. Puisque quand vous observez notre enseignement tel qu'il est mené, il semble y avoir un décalage entre la formation que nous donnons à l'université ou dans nos institutions avec ce qui se passe sur terrain. L'université n'arrive pas, ou bien l'enseignement n'arrive pas à former l'homme qui répond exactement aux besoins des entreprises. Il est vrai que si on arrive à réformer l'enseignement, on va intégrer la formation de la jeunesse qui doit avoir la capacité non d'être demandeur d'emploi, mais d'être créateur d'emploi. Cela suppose quoi? Cela suppose qu'au niveau de la formation qui doit être donnée à cette jeunesse-là, qu'on intègre la capacité, donc créer dans cette jeunesse la capacité de concevoir des projets bancables, de pouvoir déjà avant la fin de l'université, et que même les recherches qui devraient être menées au niveau de l'université, il faudrait que lorsque l'on forme cette jeunesse, que les études qui doivent être menées par cette jeunesse, que ces études s'orientent vers un projet de création d'emploi ou un projet de création d'emploi. De sorte que s'il finit l'université, et comme il a dit, avec cette cohabitation qui devrait exister entre le pouvoir et la jeunesse, qu'on puisse avoir mettre en place le mécanisme de pouvoir soutenir cette jeunesse. Quelqu'un vient avec son idée, qu'on puisse organiser des structures qui peuvent l'accompagner en termes de financement, en termes d'idées, en termes d'orientation, pour qu'il arrive à se prendre en charge. Mais si nous estimons que l'on doit continuer sur le modèle actuel,
ça sera
très très difficile.
Voilà, on va vous donner la parole rapidement, Tressy Ntumba, parce qu'on sait aussi que le défi majeur qui attend le nouveau président, c'est le cas des luttes contre les violences sexuelles. Quelles pourront être ces priorités pour vous, pour arriver vraiment à intégrer la femme et surtout la question des luttes contre les violences sexuelles, Tressy Ntumba?
Alors, je pense que si il faut parler des choses en rapport avec la question des femmes, il n'y a pas que les violences sexuelles. Je pense qu'il faudrait quand même taper là-dessus, parce que la femme n'a pas que ça comme problème. Toutes les femmes du Congo ne sont pas des femmes qui sont sexuellement violées. Alors, comme je le disais au départ, les questions liées à la jeunesse, de la même façon que les questions liées aux femmes et aux genres, sont des questions d'ordre transversal. Ça veut dire que ça rentre pratiquement dans tous les secteurs de la vie d'un État, parce que les femmes se retrouvent un peu partout. Mais alors, plus spécifiquement, ce que moi je pourrais dire concernant la question des femmes...
Oh, dommage. Tracy, on a des petits soucis, des lignes avec Colosi. Elle était en train d'évoquer tout à l'heure la question liée à la femme. En attendant qu'on puisse la retrouver, on revient à vous, Ernest Mpararo, parce que notre ami Desmond est revenu sur la question de l'emploi de jeunes. Quand on regarde aujourd'hui, avec la création de l'Institut de l'ENA, c'était juste pour le rajeunissement de la fonction publique, c'est-à-dire que les jeunes soient impliqués. Mais est-ce que ces rajeunissements, quand ils n'entrent pas en profondeur de la rupture dans le système, est-ce que le fait d'impliquer seulement les jeunes va suffire pour qu'on arrive à améliorer la question?
Je pense que non. Comme vous le savez, le nouveau président plutôt a promis de créer 400 000 emplois. Ça, c'est un engagement qu'il a pris. Et ce que notre ami a dit, effectivement, c'est une réalité qui est sur terre, qui est sur place. C'est un fait que nous vivons. Or, pour qu'on puisse parvenir à créer, on doit attirer les investisseurs, que ce soit les investisseurs étrangers ou les investisseurs nationaux. Pour attirer ces investisseurs, un, il faut qu'il y ait la paix. Deux, il faut qu'il y ait un climat d'affaires favorable. Mmh. Il faut qu'il y ait une justice indépendante. Ce sont les trois facteurs qui peuvent permettre à ce qu'un investisseur vienne. Mais si vous partez à l'Est, par exemple, dans des provinces où il y a l'insécurité, qui peut mettre son argent là-bas? Personne. Conséquence, effectivement, c'est que notre collègue venait de dire, les jeunes chôment. Or, pour parvenir à sécuriser, vous savez, au sein de la police, au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, il y a une grande corruption. Donc, les gens détournent l'argent jusqu'à ce que les militaires n'ont même pas un moyen pour se payer la bouffe. Au niveau de la... Je vous donne seulement un seul exemple. Au niveau de la police, vous aviez suivi qu'il y a des généraux qui détournaient la nourriture des nouveaux policiers qu'on était en train de former à Kananga. C'est la même chose aussi au niveau de l'armée. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de camps militaires que le gouvernement a construit pour loger les militaires, pour loger nos policiers, pour équiper nos policiers? Ils sont combien jusqu'à aujourd'hui? Tout ça, ce sont des réformes qui peuvent permettre à un policier ou à un militaire de bien sécuriser le pays, de nous sécuriser et de sécuriser les investisseurs.
Voilà.
Donc, toutes ces questions ont des similitudes. Donc, pour que moi, Ernest, je puisse investir en RDC, je dois trouver qu'on ne me tracasse pas administrativement. Il n'y a pas de tracasserie fiscale, il n'y a pas de tracasserie administrative. Mais lorsque tu as ton argent, tu investis, et le lendemain, il y a 50 agents de l'État qui viennent chez toi, ah, la première chose à faire, c'est d'entrer dans l'informel.
Et il faut formaliser l'économie, ça c'est très important. C'est la question d'ailleurs qui allait revenir pour Crispin Malingoumou. En attendant la réalisation, est-ce que c'est possible d'avoir Tracy pour qu'elle place son mot de conclusion? Tracy, vous êtes avec nous? Vous étiez en train... Oui, exactement. Vous étiez en train d'évoquer la question de la femme, oui. Oui, on vous écoute.
Oui, j'étais en train d'évoquer la question de la femme, mais insister sur la question de la parité. Comme je disais, il faut plus spécifiquement veiller à la parité et à tous les niveaux, parce que l'article 15...
Oui, voilà, des petits soucis avec Tracy. Je rappelle que nous sommes en direct. On ne saura pas avoir notre correspondant Jeff Ngoyi, vu les conditions dans lesquelles il travaille en ce moment au Palais des Nations. Mais dis-moi, après les délégations, je crois, à Tanger, c'est peut-être dans les prochaines minutes l'arrivée du président élu, du président sortant pour les débuts des cérémonies officielles. Je rappelle que nous sommes dans ce magazine spécial consacré à l'investiture du nouveau président de la République. On revient à vous, Christian Malingoumou, parce que Ernest Mpararo est évoqué la question de la formalisation de l'économie. Félix Tshisekedi l'a dit dans ses meetings des campagnes pour dire on a des problèmes de mobilisation des recettes parce que notre économie évolue plus dans l'informel. Alors, quels pourront être ces efforts pour arriver exactement à formaliser cette économie?
Comme Ernest l'a dit, les réformes doivent être menées. Ces réformes doivent non seulement porter sur le climat des affaires, ces réformes doivent porter sur la justice pour que celui qui évolue dans le secteur informel, pourquoi est-ce que les gens, on doit d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que les gens évoluent dans le secteur informel? Si les gens préfèrent évoluer dans le secteur informel, c'est puisqu'il y a moins de tracasseries. Donc si on arrive à mettre en place des mécanismes qui réduisent ces tracasseries, ça pourrait permettre à ce qu'une frange de la population qui évolue dans les secteurs informels voir comment pouvoir formaliser leurs activités. Mais aussi longtemps que le climat des affaires ne sera pas favorable, aussi longtemps que la justice ne sera pas appliquée
pour ça sera difficile.
qui est des intouchables et qui est d'autres personnes qui au moindre faux pas ils sont tracassés, à mon sens les gens préféreront évoluer dans l'informel. Mais si on arrive à mettre en place une bonne justice, à assurer la paix, à assurer le climat des affaires, beaucoup de gens préféreraient évoluer dans le formel que dans l'informel. Voilà.
Et je rappelle, là, pour ceux qui nous suivent en direct, c'est l'arrivée du président Kenya Uhuru Kenyatta qui est arrivé, je crois bien. On a vu aussi à l'arrivée de la première dame Olive Lembe. Je crois que c'est les délégations continuent à arriver pour le début des cérémonies officielles d'un moment à l'autre. Nous sommes en direct ici au studio de Radio Capi, mais nous faisons aussi vivre par moment ce qui se passe. Des fois, à la troisième heure, on aura aussi les interventions à travers le pays, à Kikuta, à Mbujima, avec nos correspondants. On revient à vous, Desmond Mouetta. La jeunesse, vous avez dit, elle est sous-représentée dans les institutions. C'est un problème aussi d'implication et de volonté de la jeunesse de se voir impliquée. Alors, est-ce que le nouveau président peut-il avoir de mécanismes pour effectivement amener la jeunesse à être assez impliquée pour qu'elle soit représentée dans les institutions ou les instances de prise de décision?
Oui, justement, c'est pas impossible, mais plutôt ça demande vraiment d'énormes sacrifices. Vous savez, aujourd'hui, on doit être clair, la République démocratique du Congo évitait un problème très sérieux. L'éducation n'est plus comme elle a été au départ. Vous savez, on a des jeunes qui aimeraient bien parler au nom des autres jeunes, mais malheureusement, ils ne sont pas à la hauteur. Le problème, c'est qu'il faut que le nouveau président mette en place des mécanismes pour, n'est-ce pas, améliorer le secteur de l'éducation. Nous le connaissons tous, il y a vraiment l'éducation qui est au rabais dans notre pays. Je crois, nous tous ici, nous avons eu à faire des tours dans des écoles, nous constatons que c'est les élèves, parfois des familles opulentes, qui sont aujourd'hui capables de se défendre. C'est là qu'ils sont de familles moyennes. Je peux vous dire, c'est vraiment une démarcation entre ces deux classes dont je venais de parler. Donc, ce qui serait peut-être à la base, c'est, n'est-ce pas, chercher à mettre en place une bonne politique qui pourrait, n'est-ce pas, accompagner les secteurs de l'éducation. Dernièrement, je suivais les statistiques. En RDC, il y a une inadéquation entre les cursus universitaires et les besoins en main-d'œuvre. Et c'est d'ailleurs ça qui pose le grand problème. Vous trouverez quelqu'un qui sort aujourd'hui licencié en économie, il va pour être embauché quelque part. D'où il part, il faut, n'est-ce pas, commencer par ce qu'on appelle un recyclage. Il doit commencer par suivre des formations. Tout ça, ça veut dire que les systèmes éducatifs congolais ne correspondent plus aux besoins.
Et d'ailleurs, Crispin Malingumu le disait tout à l'heure qu'il faut la réforme. Et Tracine Toumba parlait même des états généraux de l'éducation, parce qu'on doit vraiment chuter terminer cette émission. On aura chacun une minute pour conclure. Au-delà de défis que nous avons présentés et l'événement lui-même, quels sont les termes d'espoir Ernest Impararo, en une minute.
Bon, pour nous, nous qui luttons contre la corruption, nous espérons, nous allons voir d'abord les premières mesures de l'actuel régime. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont prendre comme premières mesures. Et c'est à partir de ces premières mesures qu'on peut juger. Toutefois, nous espérons effectivement qu'il pourra mettre comme priorité la lutte contre la corruption et la fin de l'impunité.
Et rappelons que le président est issu de l'UDPS qui a eu comme slogan depuis plusieurs années l'état des droits, la lutte contre les antivaleurs. Depuis plus de 30 ans, oui.
Effectivement. Nous devons voir, un, les dossiers FPI doivent être, tous ceux qui ont emprunté l'argent doivent rembourser. Deux, les dossiers Bukangalonzo, tous ceux qui ont mal géré doivent être sanctionnés. Trois, vous voyez les routes sur les contrats chinois. Tous ceux qui ont dilapidé l'argent en nous construisant des routes qui ne conviennent pas, on doit les sanctionner.
Et ça,
quatre,
on doit sentir ça.
La fibre optique. Aujourd'hui, nous avons une connexion plus chère.
Effectivement. Un audit généralisé.
Effectivement.
Doivent
répondre.
Un mot, Crispin Malingumu.
Oui, merci beaucoup. Tout ce que je peux dire est que le nouveau président ne part pas du néant. Il y a des efforts qui ont été fournis et lui devra poursuivre ces efforts-là. Là où les autres n'ont pas pu faire beaucoup de choses, lui, il faudrait qu'il puisse continuer ses réformes. Par exemple, dans les domaines des infrastructures, nous voyons qu'il y a beaucoup de routes qui ont été construites.
Et d'ailleurs, le président sortant, Joseph Kabila, hier, dans son discours, il a évoqué la question des infrastructures en estimant que ça devrait être aussi une priorité
pour son successeur. Vous imaginez, pour nous qui sommes nés au village, nous voyons toute la production, comment elle pourrisse dans nos villages. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas des infrastructures routières qui permettent à ce que les producteurs puissent avoir la possibilité d'évacuer leurs produits. Si on arrive à améliorer les infrastructures routières, les infrastructures de santé, les infrastructures de l'éducation et la justice, on peut y arriver.
Voilà, Desmond Mouetta, en un mot, je rappelle qu'en ce moment, on voit des foules qui entrent, bien sûr, au palais de la nation, qui s'installent, ceux qui veulent s'asseoir pour pouvoir vivre l'événement. Et nous sommes, nous poursuivons bien sûr ce magazine spécial Desmond Mouetta à Nemo.
Tout ce que nous donnerons au nouveau président, c'est de privilégier d'abord l'intérêt communautaire. Le développement, c'est un processus de changement et ces derniers exigent la participation active et engagée de chaque citoyen. Et en tant que jeune, tout ce que nous pouvons demander au nouveau gouvernement, c'est de pouvoir cohabiter avec le jeune. Les jeunes aimeraient
la cohabitation.
La cohabitation, surtout avec les jeunes.
Avec les jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous tous trois ici au studio. Ernest Imparo, président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO, Crispin Malingumu, analyste économique, Desmond Mouetta, coordinateur de UDEF. Et merci à Tristine Toumba qui est intervenue à partir des Colosi. Vous avez été nombreux, vous aussi fidèles auditeurs de Radio Capi. Merci pour cette deuxième heure de ce magazine spécial. Tout à l'heure, on va se retrouver pour la troisième heure et dernière, bien sûr, avec d'autres invités. Nous allons évoquer les questions liées à la sous-région, les questions, bien sûr, qui touchent à l'insécurité. Merci à Nico Kalambay qui était à la réalisation et à la coordination de cette émission spéciale, ainsi que Jean-Claude Chiala à la mise en onde avec Bob Landou à la coordination technique. Piro et la Mégis, c'est le réel plaisir pour moi de vous tenir compagnie avec Martin Seboujang à la supervision. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième heure de ce magazine spécial. En attendant, les délégations continuent à arriver au Palais de la Nation pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité de suivre l'événement en direct.
Mmh.